moi, je suis capable
Ah, vous êtes lent. Ben, toi, si tu parles, tu parlais.
Moi, ça me donne pas froid aux, ça me donne pas froid aux dents. Moi, j'ai,
tu m'as pas gelé par le cerveau, toi?
Non. Mais non, je fais pas vraiment de brain freeze.
Moi, j'ai fini. Quasiment.
Ouais, c'est ça.
Toi, tu fais rien.
T'as les premiers mots que tu dis, là.
Ben non.
Depuis qu'on est revenu de la pause.
Tantôt, j'ai dit merci, Véro.
Ça, par contre, ça pourrait être une.
Tu pourrais souffrir,
un
là.
Gros morceau comme ça dans la bouche, là, ça pourrait être le fameux brain freeze.
Peux-tu mourir de ça pour vrai?
On a la bonne personne pour répondre.
Et que j'avais hâte à ce moment-là. Docteur Élise Berger-Pelletier est avec nous, urgentologue. Élise, merci d'être là.
Ça me fait très plaisir. Et non, on ne peut pas mourir d'un brain freeze.
Mais pourtant, ça fait si mal.
Ça fait si mal, je sais. Mais il n'y a pas de danger de mourir. D'accord.
Okay, okay, mais même okay, pas okay. Eu pareil.
Ah, ben, attends, je sais
Et
que...
Vous savez comment faire rapidement pour gérer votre problème?
Non. Je peux-tu te dire, je
oui,
pense?
Vas-y.
Coller sa langue sur son palais?
Exact.
Fait que ça, c'est pas un mythe.
Hein? Non, ça fonctionne pour vrai.
C'est vrai?
Yes! C'était ma question pour Élise!
C'est comme te coller sur quelqu'un quand t'as froid puis t'as faire du hypothermie?
Ça amène de la chaleur rapidement. Dans le fond, c'est les nerfs qui deviennent comme gelés qui vont aller faire le fameux brain freeze. Là. J'ai pas le terme français, je m'excuse.
Mourir oui, gelé par le cerveau. Là.
Oui, mourir, tout à fait. Donc, c'est ouais, mort c'est atroce.
Peut-être ajouter mourir.
Et la solution pour ne pas mourir,
brain
c'est de mettre
freeze,
sa langue.
Il n'y a pas mourir là-dedans.
Puis t'es là, avec ta langue collée sur ton palais. Puis
c'est une traduction libre. Je suis une artiste.
Des et fois. Voilà.
Ben, un gel de cerveau.
Un gel ouais. De cerveau.
Oh, on est là pour démystifier des trucs. Puis ça, c'est une belle façon de mettre la table pour la discussion qu'on va avoir. Puis je suis tellement heureux que tu aies confirmé l'histoire de mettre... La... Parce que sinon, depuis des années, je le faisais absolument pour rien là, quand
en
j'ai
fait,
un brain freeze.
Est-ce que ça réglait ton problème?
Ben, je pense que oui, mais je donc, me demandais oui. Des fois si c'était un addon ou pas.
C'est un placebo, psychosomatique, ouais. Je sais pas, moi.
Non, ça fonctionne pour de vrai.
Fait que là, ceux qui ont des enfants puis qui se plaignent avec la crème glacée, les slushs puis tout le kit, il y a maintenant le truc, colle ta langue au palais.
Exact.
C'est réglé.
Les enfants font ça depuis des années.
Malade. OK, là, il y a d'autres choses à régler.
Oui.
D'autres trucs à peut-être démystifier aussi, mythe ou réalité. Moi, ma jeunesse a été pas mal dictée par des adultes qui me disaient quand... J'étais au camping ou au chalet où on avait une piscine dans la cour.
Ouais.
Après le repas, faut attendre. Tu peux pas te pitcher dans l'eau. Tu peux pas. Hey, tu vas pogner une crampe. Tu vas,
hey, on
tu vas
a été grillés, là. Tu t'attendais à crever si après ton sandwich au jambon, t'allais dans la piscine hors terre.
À un point tel que moi, ensuite, parce que personne m'a dit c'est vrai ou c'est pas vrai, mm-hmm. C'est ce qu'on me disait. J'ai travaillé 8 ans de temps dans les camps d'été et c'est ce qu'on disait après ça aux jeunes. Non, après le dîner, prendre ça plus relax, petite activité, on ira dans l'eau un petit peu plus tard. Élise. Mythe ou réalité qu'on peut pas aller se baigner après un repas?
C'est un mythe. Pour vrai, fait que c'est vraiment les parents qui faisaient ça pour avoir la paix? Probablement. En fait, c'est intéressant. Ça vient d'un article de la presse de la semaine dernière qui, justement, répondent à des questions du public sur mythe ou réalité. Et la question était, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de mortalité par noyade si on va se baigner tout de suite après avoir mangé? Donc, puis écoute, j'ai été drillée moi aussi, mon petit hot dog stimé du midi, puis on voulait aller se baigner, puis nos parents étaient non,
trop
tu dois attendre une heure avant d'aller te baigner.
Faut le digérer.
C'est ça, une heure.
Exactement. Ceci dit, c'est vrai que quand on mange, en fait, logiquement, il y a plus de sang qui s'en va vers notre estomac, nos intestins, donc il y a moins de sang disponible pour nos muscles. Fait que c'est quand même prouvé que si vous mangez surtout un repas copieux, puis vous décidez d'aller faire de l'activité physique, peu importe laquelle, la course, la natation, vous êtes un petit peu plus à risque de faire des crampes musculaires.
Donc, bonne régule avant un jogging.
Mais c'est ça. Il n'y a personne qui ferait, justement, jogger après avoir mangé un gros spaghetti à la viande. C'est bien logique. Fait que c'est la même chose pour la nage. Mais par contre, dans le fond, ce que l'article disait, puis je suis allée voir les citations scientifiques, c'est sûr qu'on ne fera jamais une étude, tu sais, une vraie étude scientifique. On appelait ça à double insu. C'est-à-dire qu'on va prendre des humains, on va les faire manger puis se baigner. Puis après ça, on va prendre des humains puis on va les faire se baigner puis on va voir s'ils vont se noyer. Ça n'arrivera pas comme étude scientifique. Hein? Fait que ce qu'on fait, c'est on regarde dans le passé. On regarde les noyades, mettons, sur 15 années dans une juridiction X. Puis on regarde tous ces gens-là qui se sont noyés, est-ce que c'était après avoir mangé? Puis la science, quand on refait cette analyse-là, c'est la réponse, c'est non. Ça n'a aucun rapport.
Mais ça aurait-tu pu avoir une logique?
Le lien était surtout par rapport à l'alcool. Fait que si vous avez mangé et pris de l'alcool, okay. L'alcool est quand même un lien avec les noyades, particulièrement sur les embarcations. T'sais, vous
on prend plus
voyez
de chance, j'imagine. Là.
À chaque année, ouais. T'sais, on a de la publicité là-dessus. C'est une question de santé publique. On a pris un petit verre de trop, on ne met pas sa ceinture, on tombe en bas de l'embarcation, on va être moins agile dans l'eau si on a pris de l'alcool et on va pouvoir se noyer malheureusement. Donc, c'est le seul lien par rapport à l'alimentation. C'est pas d'avoir mangé, avoir attendu une heure ou quoi que ce soit. Fait que c'est un mythe. Il y a comme trois grandes catégories dans les noyades. Il y a la témérité, donc être allé sur la glace trop mince. Mm. Les enfants, entre autres, qui sont téméraires, qui vont aller dans l'eau parce qu'ils sont insouciants, ne connaissent pas le danger.
Les roches plates à Beauport, on en a tellement parlé. C'est des secteurs où tu penses qu'il n'y a pas de risque. Mais
les
c'est
courants.
Tu as les courants, c'est mais ça. C'est les roches qui sont glissantes en plus de ça. Ouais. Fait que le mélange de tout ça, pendant des années, là, je pense que c'est moins le cas maintenant parce qu'il y a tellement eu de prévention. Puis ils ont mis de l'affichage tout le kit. Et on avait des noyades quasiment toutes les années dans ce coin-là. Là.
Exactement. Puis donc, puis le classique, c'est ça, la rivière qui a du courant, que tu ne penses pas qu'il y a du courant. Ouais. Puis finalement, bon. Fait qu'il y a tout ce bout-là qui est vraiment la témérité, je dirais. Il y a le volet embarcation, c'est là où on a beaucoup les problèmes avec l'alcool. Et la dernière catégorie qui est vraiment les noyades à domicile, donc les piscines, puis ça, c'est clairement chez nos enfants de moins de 5 ans. Puis là, avec la nouvelle réglementation, on espère que ça va diminuer ces noyades-là chez nos poupons. Mais c'est comme les trois grandes catégories. Fait que non, le hot dog ou la sandwich au jambon n'est pas une cause de noyade. C'est un mythe.
Question peut-être. Regarde, on est là pour poser des questions. Moi, quand j'étais plus jeune, puis on disait justement, on me disait, va pas te baigner après un repas, ou que je le disais aux plus jeunes si j'étais moniteur de camp d'été. Moi, je pensais à une crampe, genre, tu viens de le manger, tu viens de manger un repas, ton ventre est plein, tu l'as pas assez digéré, fait que tu vas avoir comme plus une crampe intestinale ou de ventre qui va te faire mal et que tu vas peut-être... Mais fait que, est-ce qu'on parlait de ce genre de crampe-là ou... Est-ce qu'on avait peur de crampes musculaires? Je ne sais pas si ma question est de crampes musculaires.
Ouais, les deux sont possibles. Parce que comme je dis, c'est que là, si ton pauvre système circulatoire, il est comme « Ouh, je vais-tu digérer? » ou « Ouh, je m'en vais donner du sang à mes muscles? » Puis là, il ne sait plus où choisir. Mais à un moment donné, il va faire un choix, ce qui fait que ça se peut que tu aies des crampes de ventre parce que là, tu n'as pas assez de sang pour digérer. Ou l'inverse, tu vas avoir des crampes de muscles parce que tu n'as pas assez de sang pour faire l'activité qui est la nage et de rester en dehors de l'eau. Fait que oui, ça, puis l'article n'était pas spécifiquement là-dessus, mais c'est juste, ça n'a pas un risque de mourir. Est-ce qu'il y aurait une étude à faire sur le risque de crampes? Je reviendrai dans quelques jours pour vous en parler, parce que j'avoue, je n'ai pas vérifié. Mais il y a une certaine logique physiologique de penser que ça peut créer des crampes. Puis bien évidemment, manger ou pas manger, c'est de ne pas aller se baigner seul non plus, parce que j'avoue que si vous allez vous baigner, vous avez une bonne crampe puis vous êtes tout seul, c'est quand même un risque pour une noyade.
Je peux-tu te pitié, en mini-parenthèse, deux questions qu'on a reçues par texto, puis ensuite, je veux qu'on passe aussi avec... puis ça va être dans l'activité physique, peut-être les crampes, l'hydratation aussi, parce que le Festival d'été de Québec va commencer. Peut-être grève de transport en commun, peut-être des gens moins en forme qui vont être obligés de faire plus d'activité physique, moins bien préparés, mais bref. Juste avant, 88-971-1021. Premièrement, sur les brain freeze et le palais. Étienne demande... ça n'a jamais fonctionné pour moi. Est-ce que c'est une histoire d'épaisseur interne du palais? Et là, on est rendu dans... Hey, mais là, je trouve ça drôle. Je suis comme, OK.
Disséquer.
Ça n'a pas fonctionné pour toi. OK.
Mais en fait, si ça ne fonctionne pas, c'est d'aller chercher de la chaleur pour aller contrebalancer le froid. Fait qu'à ce moment-là, de l'eau tiède chaude, là, on s'entend pas si bouillanter ou quelque chose comme ça pour être une solution. Est-ce que c'est une question d'épaisseur du palais? J'en ai aucune idée.
Je trouvais ça pas mal particulier.
Oui. Écoute, c'est, en fait, j'adore venir ici parce qu'à chaque fois, il y a des questions que je me dis, mais j'ai pas la réponse. Fait que je vais la chercher pour la prochaine fois.
Ça, là, il y a aucun problème. Tu sais, je veux dire, t'as pas la réponse. Parce que je sais pas si tu vas avoir la réponse pour la prochaine question que Sébastien nous envoie. Les gens font des drôles de liens.
L'amalgame,
ouais. Est-ce que c'est vrai, Élise, que prendre de la boisson sur un bateau, on devient plus sous, plus chaud?
Je peux-tu essayer mon hypothèse?
Vas-y, mon petit docteur en herbe.
Je pense que c'est parce que sur un quand tu fais du bateau, souvent, c'est le gros soleil, fait chaud, fait que c'est plus ça que le bateau en tant que tel.
Tu manges moins aussi, hein?
C'est très fort. C'est souvent une question qu'on se déshydrate et donc le taux d'alcoolémie augmente plus rapidement dans le sang parce que vous êtes déshydraté. Donc, le soleil, souvent le vent va faire qu'on ne va pas sentir la chaleur non plus, puis on ne va pas penser à s'hydrater. Donc, c'est pas tant d'être sur le bateau. Si vous seriez dans le désert à prendre de l'alcool, vous auriez peut-être aussi le même effet parce que vous vous hydratez pas suffisamment et de façon inadéquate.
Ben, un peu dans le même sens, souvent on entend, puis ça, c'est peut-être plus thématique hiver, là, quoi qu'il y a peut-être, en tout cas, être dans un spa, boire dans un spa.
Oui.
Ça, c'est-tu vrai que tu deviens plus chaud plus vite?
Même principe. C'est que dans le fond, l'alcool va, premièrement, vous déshydrate. Elle empêche l'hormone qui retient l'eau dans votre corps de fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'on dit, t'sais, on prend une bière, on en urine deux, là. On entend souvent cet adage-là, mais c'est vrai, ça joue. Fait que vous allez vous déshydrater. Le spa, même affaire, on vasodilate parce qu'il fait chaud dans un spa. Même chose, le taux d'alcoolémie va vraiment augmenter plus rapidement. Ben, c'est un principe similaire. Là, vous allez me dire, voyons, je suis dans l'eau, je ne suis pas hydratée. Non, parce que votre corps absorbe pas l'eau du spa, vous comprenez, par la peau. Donc, même principe.
My God, les gens, là, par texto, cherchent probablement les meilleurs endroits pour se saouler. Je ne sais pas si c'est ça, mais Kevin demande, en avion, est-ce que ça saoule plus de boire en avion?
Oui, c'est prouvé.
Puis là,
ça
c'est
aussi
plus une affaire de déshydratation.
C'est pour ça que tout le monde chaud est désagréable en avion. Ils sont juste plus chauds ou sont
exactement
juste
c'est une question de pression cette fois-là. C'est que dans le fond, on a les. Quand on monte en altitude, ben, si on faisait tout le monde ensemble, on monterait à l'Everest, vous le savez, il y a moins de pression d'air en altitude. Quand on monte en avion, l'avion ne va pas être pressurisé au niveau de la mer. Donc, c'est pour ça, moi qui est très sensible à tout ce qui est avion, je le sens que je ne suis pas à une altitude normale. Je suis très sensible de ça. Véro en sait quelque chose.
J'ai flatté les cheveux pendant qu'elle vomissait la dernière fois qu'on a atterri
ensemble. Ouais, je suis toujours malade en avion.
Tranche de vie.
Tranche de vie. Donc, fait que la pression est moins élevée et le taux d'oxygène aussi. Dans le fond, une cabine, là, c'est pressurisé environ, je me rappelle plus exactement le nombre de mètres d'altitude, ça sera à vérifier. Puis vous allez avoir une saturation en oxygène à 93 %. Contrairement à ici, vous êtes à 98 % là, pour votre taux d'oxygène. Fait que ces deux facteurs-là, combinés à l'alcool, même chose, votre taux d'alcoolémie va augmenter plus rapidement. Fait que c'est des mécanismes différents, mais qui ont le même effet sur le corps humain, c'est-à-dire l'alcool qui absorbe plus vite, puis on vient chaud plus rapidement.
Là, gang, au 88-971-102. Est-ce qu'on a... Non, ça a l'air que... Okay.
Ah, c'est bon,
okay,
ça!
OK, c'est bon, celle-là aussi. OK. Moi, je pensais... On a tout de suite le tour de...
Non.
Qu'est-ce qui saoule plus, saoule moins?
Ça
non!
Ça va être un chronique alcool.
Élise, oui. Pourquoi on saoule plus en buvant à la paille?
Ça, c'est une bonne question. J'avoue que... Mais ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Puis
juste... Tu bois plus vite sans t'en rendre compte?
Un peu comme shotgunner une bière,
j'ai
peut-être?
J'ai l'impression que c'est ça. Je pense que c'est juste le débit qu'on absorbe avec la paille. Fait que je peux pas vous répondre hors de tout doute. Ça aussi, ça va être à vérifier.
C'est drôle, okay. Ça, comme
mais c'est une bonne
c'est
question.
Extraordinaire. Je pense qu'on a vraiment... Hey,
ça paraît que le festival d'été s'en vient.
Bien, c'est ça. Hydratez-vous au Festival d'été de Québec et peut-être de façon particulière en plus cette saison estivale puis lors de cette édition du festival. Parce que, puis c'est là que je voulais en venir par rapport aux gens qui vont peut-être donner en plus un petit peu... Puis l'alcool peut rentrer là-dedans là aussi, là. Mais les gens qui vont peut-être donner un effort physique supplémentaire cette fois-ci pour le Festival d'été de Québec, si on a grève du RTC, si on n'a pas les transports en commun, ça va être, tu sais, puis on encourage ça là, à pied ou à vélo.
Il y a tellement d'auditeurs qui nous ont dit, bon, on va aller stationner, on va essayer de monter l'escalier du Cap Blanc à pied, mais là-dedans, il y a des gens qui l'ont jamais monté l'escalier du Cap. Il y en a qui n'ont jamais monté en ville à pied à partir du secteur, je ne sais pas moi, de la gare du Palais.
Je suis un peu inquiète, sincèrement, d'un point de vue de santé publique, parce que l'autre chose aussi, quand je réfléchissais à ça, puis je voyais qu'il y avait potentiellement une grève des traversiers aussi, c'est que j'ai aussi peur que les gens prennent leur voiture en état d'ébriété, sincèrement, là, parce que là, on fait des blagues avec le taux d'alcoolémie qui augmente, tout ça, mais sincèrement, souvent, les gens étaient quand même, justement, respectueux, prenaient les transports en commun, prenaient le traversier pour éviter de conduire en état d'ébriété. Puis là, j'étais comme, oh my God, tout le monde prend sa voiture, puis fais-moi attention. Puis justement, il va faire chaud, on va se déshydrater. Donc, souvent, c'est là où c'est encore plus traite, puis on pense qu'on est correct pour conduire, mais finalement, on est au-dessus de la limite permise, puis on est à risque, puis c'est évidemment un risque de faire des accidents, de blesser des gens.
On a moins de réflexes.
Tout à fait. Mm-hmm. Fait que, ouais, là, mettons là, qu'on se dit qu'on ne prendra pas notre voiture, puis qu'on va utiliser nos jambes. Premièrement, pour ceux et celles qui écoutent actuellement, connaissez-vous bien votre corps? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments, entre autres, qui ont des impacts sur comment vous allez gérer la chaleur. Les antidépresseurs, les gens, des fois, ils vont dire « Ah, tu sais, moi, je ne prends pas de pilule, sauf mon médicament pour l'anxiété. » Puis c'est souvent des médicaments qui sont dans la même famille des antidépresseurs. Mais ça fait que votre corps sécrète moins de chaleur, en fait. Okay. Fait que quand vous avez chaud, votre température monte plus. Les antihypertenseurs, il y en a beaucoup là-dedans qui vont faire que vous allez vous déshydrater plus rapidement. Fait que premièrement, posez-vous la question, tu sais, qu'est-ce que je prends au quotidien? Est-ce que je dois faire attention? Deuxièmement, tu en as parlé, c'est vraiment de s'hydrater. À l'inverse aussi, si vous prenez beaucoup d'alcool, je vous l'ai dit, l'alcool, ça fait que nos vaisseaux se dilatent. S'il pleut, il fait froid, vous êtes à risque de faire de l'hypothermie, même s'il fait chaud, ce qui est un peu contre-intuitif, pas s'il fait 30 de température. Ouais. Mais si vous êtes tout mouillé puis vous allez marcher longtemps, vous êtes un peu à risque de faire de l'hypothermie. Fait que les deux sont possibles pendant un festival d'été. Fait que le petit poncho, entre autres, peut être bien pratique. Puis c'est aussi de savoir justement où il y a des endroits où on peut aller... soit se protéger de la pluie ou aller chercher de l'eau, etc., etc. Mais la chose à retenir, c'est ça. Deuxièmement, quand on parlait d'effort physique, ben le danger aussi, c'est de se blesser, de se faire une entorse de cheville, surtout que c'est chaotique un peu quand il pleut. Fait qu'évidemment, je pense toujours à mes collègues paramédics, à mes collègues secouristes, parce que je pense qu'ils vont être bien occupés si tout le monde marche beaucoup. Mais ça fait partie des choses que les gens ont peut-être pas eu le réflexe dans les dernières années, mais là, qu'ils vont avoir à développer ce réflexe-là dans les prochains jours.
Tu sais, je m'inquiète d'un scénario assez particulier. Vous allez me dire que tu t'inquiètes à rien, mais j'imagine quelqu'un qui fait pas souvent des activités physiques. Et là, je fais un peu son tracé, mais prends quelques consommations peut-être à la maison, fais un petit bout soit à pied ou à vélo, monte la fameuse côte, se rend finalement en ville, se met en file pour accéder aux plaines, pogne une autre consommation. Fait que là, tout ce temps-là, la personne fait rarement de l'activité physique, là. Tout ce temps-là, la personne est debout et exerce un côté physique à la chose. Reste debout longtemps en file. Tu t'assois pas non plus quand t'arrives ces plaines pour la durée du spectacle. Je m'imagine qu'à quelque part là-dedans, puis encore une fois, on salue
Parles-tu
de
moi, là?
Non, parce que toi, tu marches. Tu marches
c'est
beaucoup.
Vrai, un grand
non, je parle pas de toi, pas en tout, pour vrai. Mais, tu sais, puis après, je m'imagine ou je m'inquiète pour certaines faiblesses qu'il va avoir, là, des faiblesses physiques. Là, tu sais, je ne vais pas dire s'évanouir, mais des faiblesses physiques parce qu'on n'est juste pas habitué. Et Steve nous écrit Jean-Denis Gravel. Peut-être, je pensais à Denis qui marche jusque-là, mais tu sais.
Tout à fait. Donc, faiblesse. Puis, il va y avoir des gens qui vont perdre connaissance. Ce scénario-là que tu t'expliques, là, à un moment donné, la pression, l'enfant, c'est que la pression artérielle baisse tellement que tu perds connaissance. Ton cerveau, il est comme « au secours, j'ai besoin de sang, faites quelque chose ». Blackout, on s'écrase au sol, puis là, à ce moment-là, puis si on est dans une grande foule, tu sais, puis on est hyper cordé, comme ça peut arriver des fois, c'est compliqué aussi pour les secours d'aller chercher ces gens-là. Fait que si, mettons là, Max, là, il s'écroule sans connaissance à côté de moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les premiers soins? Hypothèse. Premièrement, c'est de vérifier est-ce qu'il y a un pouls. Donc, on essaie de le prendre. Est-ce qu'il respire? Fait que, on regarde ça. Si c'était un arrêt cardiaque, là, ça serait moins bon. Mais mettons qu'il a juste fait une chute de pression, qui va être la majorité. La chose à faire, c'est de laisser la personne coucher si c'est sécuritaire, puis d'élever les jambes tout simplement. Elle va revenir à elle, habituellement 30 secondes, une minute. Puis c'est là où il faut trouver quelqu'un avec une bouteille d'eau. Bouteille d'eau fraîche, c'est encore mieux. Puis laisser la personne le temps, quelques minutes de se reposer, de prendre un petit peu d'eau avant de dire qu'elle se relève. Parce que le classique qu'on voit souvent, nous, à l'hôpital, c'est la personne perd connaissance, puis elle essaie de se le relever rapidement, elle perd connaissance une deuxième fois, puis là, ça inquiète les gens, puis ils viennent à l'hôpital, puis c'est bien correct. Fait qu'on prend son temps. L'autre chose, dans le scénario que tu parles aussi, c'est un bon test pour les coronaires. Tu sais, les gens qui font des infarctus, il y a des gens qui font des infarctus avec l'effort que tu... Fait que s'il y a une petite douleur au cœur, puis ça serre fort quand vous faites tout cet exercice-là, c'est pas le temps de rester sur les plaines. On va demander à quelqu'un de l'aide, puis consulter, parce que là, votre cœur, il vous parle. Ouais. Exactement. Puis là, on a parlé d'alcool, on a parlé d'exercice physique, mais on n'a pas parlé de drogue.
Et puis, je voulais profiter du fait que tu es en studio avec nous, puis le festival commence demain, parce qu'on est en 2025, puis il faut absolument surveiller nos consommations, là.
Surveillez vos consommations. La petite pilule qu'on vous offre, que vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez la refuser. Il existe trois catégories hein, dans les drogues. Tu as les sédatifs. Donc, on a tout le fentanyl, les benzodiazépines, l'alcool, c'est un sédatif. On a ensuite de ça les stimulants, donc méthamphétamine, les amphétamines, la cocaïne, ça, c'est dans les stimulants. Donc, ça va augmenter l'énergie. Puis après ça, on a tout ce qui est plutôt dans les... effet second, là. Fait que la kétamine, l'ectasie rentre là-dedans, où là, souvent, il va y avoir un volet hallucinatoire qui va être ajouté. La cannabis est dans cette catégorie-là aussi. Fait que c'est sûr que si vous êtes un consommateur de cannabis régulier, vous prenez du cannabis, je veux dire, en plus, maintenant, c'est légalisé, là, ça va de soi. Mais c'est vraiment le concept d'essayer quelque chose de nouveau ou être dans l'influence. Là, c'est peut-être pas le meilleur des setups, mettons.
Je pense, parce qu'il y a des drogues là-dedans qui sont plus raides que d'autres, mais même quelqu'un qui prend jamais de cannabis, qui se fait offrir des comestibles, des edibles, qui n'a pas connu, il n'a aucune idée de l'effet que ça va y faire. Puis, ça fait pas d'effet, je vais en prendre plus.
Puis, t'es pogné dans le milieu de 50 000 personnes?
Puis t'as eu chaud, puis t'as marché, puis t'as pris de l'alcool. Fait qu'en plus, on a vraiment là, un terreau fertile pour pas se sentir bien. Puis c'est parce que surtout, vous en profiterez pas. Là. Si c'est un ben que vous adorez, puis que vous vouliez voir pendant le festival, puis que vous êtes là à vous vomir la vie ou
ça être obligé d'aller voir. Civière avant le début
c'est
de la
toune. C'est pas agréable pour personne. Fait que je dis pas, évidemment, mon conseil est ne prenez pas de drogue, chers auditeurs. Mais encore une fois...
Il y en a qui vont le faire pareil.
Exactement. Puis là, c'est là où, ben, est-ce que quelqu'un... Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que la personne qui, avec qui je consomme la drogue est fiable? Parce que le danger aussi, c'est justement se faire mettre quelque chose dans son verre ou pas
je
savoir
là,
ce qu'on consomme. Ouais. Parce que ça, ça risque... C'est un danger aussi, là.
Ça arrive. Plus particulièrement en été, on a entendu parler dans des bars de Québec, mais dans les festivals aussi, c'est la même affaire, là, la fameuse drogue du viol, ouais. Que certaines personnes qui n'ont aucune conscience vont peut-être essayer de dropper ça. C'est quoi les premiers symptômes? Comment on peut être... Tu sais, mettons, si tu commences à le ressentir, d'être capable de lever le flag à tes proches en disant « Hey, il y a de quoi qui ne fonctionne pas avec moi? »
C'est le GHB, donc la fameuse drogue du viol, en fait, c'est que c'est comme avoir pris 10 bières en 3 gorgées, si vous voulez, là, pour faire un comparatif. Donc, c'est le GHB dans la même famille que l'alcool, c'est un sédatif. Puis ça a un effet rapide et instantané sur votre niveau de conscience. Pardon. Vous allez devenir rapidement comme en état d'ébriété, alors que vous n'allez pas avoir consommé. Tu sais, des fois, les gens me disent « Ah, je pense que j'ai eu une drogue du viol. » Je dis « Oui, mais tu sais, ton ami me dit que tu as pris 8 shots de tequila. » C'est peut-être plus les 8 shots de tequila. Mais quand là, tu sais, la personne est fiable, elle me dit « Écoute, j'avais rien pris. C'était mon premier verre. J'ai consommé. Puis là, j'ai fait un blackout. Je me souviens pas ce qui se passe. » Mais si vous vous sentez vraiment pas bien, puis le problème, Véro, c'est que souvent, ça va tellement vite que les gens n'ont même pas le temps de dire « Hey, je me sens pas bien, il y a quelque chose d'anormal. »
Okay, c'est
souvent,
sur une courte période,
ils vont, ouais, c'est ça, ils vont être complètement... Vraiment, là, ça ressemble vraiment à un état d'ébriété profond alors que la personne n'a pas consommé d'alcool, vraiment.
Autre question qui je la trouve intéressante quand même. La personne demande « Est-ce qu'on peut faire une overdose de cannabis? » Beaucoup
oui.
disent que non, mais moi, je me pose... La personne dit « Je me pose vraiment la question. »
Oui, oui, j'en ai vu. Oui, oui, ça existe, des overdoses de cannabis.
Puis, overdose de cannabis versus, mettons, drogue plus
chimique
ou
ouais.
autre comme ça. C'est quoi la différence? C'est-tu...
Chaque drogue est très différente dans son overdose. Là, donc, quand on est vraiment à des quantités toxiques, le cannabis, les gens vont souvent... devenir avec le cœur qui bat rapidement, vont souvent avoir des symptômes gastro-intestinaux, donc vont vomir, état de conscience altéré. Le plus grave des plus graves, ça, j'en ai jamais vu, mais en théorie, il y a des risques de convulser, donc faire comme une crise d'épilepsie.
On parle de cannabis, là.
On parle de cannabis, puis c'est souvent les gens qui font de la wax, là, j'utilise des ouais. termes de rue, je connais pas ça tant que ça, mais la wax, entre autres, c'est une résine qui est à 80-90% de THC pur, fait que c'est des doses de cheval de THC, puis c'est moi, c'est les cas que j'ai vus d'intoxication, c'était ça. Ou, malheureusement, les cas d'intoxication que j'ai vus, c'est des enfants, des jeunes enfants qui en ont pris par mégarde. Puis chez les enfants, il y a des décès de rapportés à des intoxications au cannabis. Fait que oui, on peut faire une overdose de café. Fait qu'on peut faire une overdose de cannabis.
Fait qu'en gros, faites-vous attention, surveillez-vous ouais. les uns les autres, là, puis soyez bienveillants dans vos consommations.
Hydratez-vous.
C'est l'été, c'est des parties, il y a des gens qui vont expérimenter, mais de le yes. faire dans un contexte de confiance. Tiens.
Man, puis pour le cannabis, je trouvais ça vraiment... Ouais. Bonne question. Merci à la personne qui nous a texté ça, puis merci pour la réponse aussi, Élie, parce que j'ai toujours pensé, moi, que c'était plus, tu sais, overdose de cannabis va jouer sur...
Puis
le mental, puis peut-être ouais. que t'angoisses ou tu
oui.
stresses
oui.
plus et tout ça, mais ça peut aller
un
encore plus loin.
Un
bad trip, là. De...
Mais non, il y a vraiment des signes physiques d'une intoxication. Fait que c'est ça. Profitez de votre festival en sécurité. C'est ça le message.
J'ai adoré ce... Hey, on est parti de... en passant de brain freeze, là, puis de mettre la langue au palais, mais en passant par démystifier les repas puis la baignade tout de suite après, par tous ces conseils super importants là, par rapport au Festival d'été de Québec et les autres événements et festivals à nos portes comme ça. Docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue, merci pour ça. Merci, c'est bien apprécié.
Bel été, tout le monde.
Merci beaucoup. Circulation, Max?
Ouais, il faut vraiment aller sur les routes, malheureusement, parce que c'est le... Bordel. Commencez par 20 Ouest, hauteur chemin des îles, la voie de Guadeloupe qui est partiellement entravée par une panne et 20 Ouest est déjà assez compliqué, merci, là, entre un peu avant route du président Kennedy et Taniata. Guillaume Couture, où il y a les travaux, c'est pas facile non plus. Par contre, pour ce qui est de l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord tantôt, on avait quand même de bonnes difficultés, là, ça semble pas mal mieux. Par contre, de l'autre bord, pour ce qui est d'accéder au pont Pierre-Laporte, direction sud, là, on est encore dans le même maudit bordel. Par Duplessis, ça refoule jusqu'à la 40. Ça à 40, l'autre bord aussi. En 4, ça remonte jusqu'à à peu près Wilfrid Hamel. La capitale, direction ouest, Benjamin, entre l'entrée par Henri IV jusqu'à Pierre-Bertrand. Capitale ouest, au rouge de Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Je mentionnerai que Robert Bourassa reste des problèmes. Là, c'était plus compliqué tantôt qu'on en a parlé, mais quand même, toujours Robert Bourassa, donc direction nord vers le boulevard Le Bourgneuf. Quand même un bon ralentissement. Non, pas facile aujourd'hui.
Non, puis merci pour les informations que vous nous envoyez. Les petites blagues aussi, Pascal, qui dit « On dit que le sexe est une drogue. On peut-tu en mourir d'overdose aussi? »
Crise cardiaque est si vite arrivée.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, ça m'arrivera pas une overdose de sexe.
Et le classique aussi, c'est les anévrisses au cerveau après les relations sexuelles, puis il y a des gens qui meurent de ça.
Voyons!
Ben oui. Ouais. C'est un gros exercice physique,
là. L'amour. Hein?
Oui, je sais bien.
Max, il mourra pas de ça. Il tombe tout le temps endormi avant. Ça vénisse. Ça réveille après ça. OK, pause. Le retour.